Radio Kawa présente Ludographie comparée, une émission proposée par Mathieu Gou. Thème de l'émission.
Cette émission sera consacrée au jeu Super Mario Odyssey, sorti en 2017 sur Nintendo Switch et développé par Nintendo. Il sera interrogé son choix de multiplier le nombre d'objets de quête au regard des précédentes aventures 3D du plombier, ce qui sera ensuite mis en relation avec le principe de course-poursuite constitutif de l'histoire du jeu.
Première partie, présentation et problématique.
La série des Super Mario, que ce soit en deux dimensions ou en trois, a toujours su marquer de son empreinte le média dans son intégralité. Quand bien même tous ces épisodes ne seraient-ils point révolutionnaires, ils sont toujours attendus avec délectation et déterminent, pour les meilleurs d'entre eux, la future orientation du média ou, tout du moins, du genre de la plateforme. On doit à Super Mario 64, ne serait-ce, une construction de la plateforme 3D et une série d'attentes qui en ont fait le patron de tous les jeux subséquents du genre, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Cette construction, que l'on a notamment retrouvé dans tous les jeux du genre de la N64, dans Banjo-Kazooie ou Donkey Kong 64, mais également dans les jeux de la génération subséquente de consoles, Jak & Dexter ou Ratchet & Clank par exemple, et même si la chose a quelque peu disparu ces dernières années, nous observons une résurgence de ce genre de jeu avec Yooka-Laylee ou A Hat in Time et, bien entendu, Super Mario Odyssey. Cette construction générale est assez simple à saisir. À partir d'un hub, ou d'un espace de jeu distribuant différents mondes ou différents univers, le joueur est invité à remplir différents objectifs pour récupérer des objets de quête, qui des étoiles, qui des soleils ou des bananes ou que sais-je, pour débloquer les mondes ultérieurs et, finalement, atteindre le dernier boss et finir le jeu. Si ce modèle n'a jamais parfaitement perdu de sa popularité, l'obtention de ces objets de quête a en revanche subi plusieurs modifications au fur et à mesure du temps. Il est deux éléments à considérer. D'une part, l'exploration d'un monde ouvert ou, au contraire, d'un monde davantage linéaire et progressif. C'est l'opposition que l'on peut trouver, par exemple, entre Donkey Kong 64 et Super Mario Galaxy. Quand bien même y aurait-il, dans un cas comme dans l'autre, et une composante linéaire et une composante exploratrice, tout dépend encore de la dominante de ces jeux. Dans Donkey Kong 64 ainsi, chaque environnement est assez ouvert, et le joueur peut choisir, plus ou moins à sa convenance, la zone qu'il choisit d'explorer et les objets de quête, ce faisant, qu'il peut récupérer. Dans Super Mario Galaxy en revanche, chaque objet de quête est l'objet d'une mission que l'on doit accomplir en suivant un chemin prédéterminé, avec peu de liberté possible. Le deuxième élément, c'est le nombre d'objets à récupérer au sein d'un environnement donné, et c'est là où Super Mario Odyssey se démarque notablement de ce qui a été fait auparavant. Traditionnellement, ce nombre était certes assez élevé au regard de l'intégralité du jeu, dépassant volontiers la centaine ou la deux centaines, mais les mondes en eux-mêmes n'en proposaient tout au plus qu'une dizaine. Ces éléments constituaient souvent, bien qu'irrégulièrement, des missions sélectionnables au commencement d'un univers et ils donnaient une orientation quant aux futures actions que le joueur devait accomplir. Super Mario Odyssey, en revanche, propose presque une centaine de lunes, nécessaires pour débloquer les différents niveaux du jeu et accéder au combat final, au sein de chacun de ces royaumes, pour un total excédant les 800. Bon an, mal an cependant, seul un tiers d'entre elles sont nécessaires pour vaincre Bowser. Le reste permet certes de débloquer des costumes et mondes supplémentaires, mais à peine plus de la moitié permet d'accéder à l'ultime monde secret. Le reste est du superfétatoire, permettant certes d'explorer parfaitement le jeu et d'avoir quelques ultimes secrets, mais inconséquent au regard de la progression naturelle de la partie. Ce choix de gameplay a de multiples conséquences, non seulement au sein de la dynamique même du jeu, mais aussi au regard de la plateforme 3D, conséquences que nous proposons de développer au cours de cette émission par l'intermédiaire de notre problématique, formulée comme suit, qu'implique, tant au niveau de l'histoire du jeu que de son gameplay, la multiplicité des lunes à collecter dans Super Mario Odyssey.
Deuxième partie, le chemin et l'objectif.
Un jeu vidéo, nous l'avons régulièrement dit ici, se définit à minima par trois éléments inaliénables. Un espace, des règles et un objectif. Nous nous concentrerons en particulier dans cette émission à ce dernier pôle, en tâchant de le catégoriser au mieux. L'objectif dans un jeu vidéo doit tout d'abord se distinguer de l'objet, qui est un élément bien plus localisé et qui peut ne pas avoir de conséquences directes, quand bien même cela serait régulièrement le cas. Ainsi, l'objectif de Super Mario Bros, premier du nom, est d'atteindre le niveau 8-4 et de la compléter. Tout le jeu est ainsi construit dans cette direction, du scrolling unidirectionnel de l'écran au Warp Zone nous amenant toujours en amont de notre partie. Mais l'objet, ponctuel, de notre progression, est tout simplement et répétitivement de compléter un niveau en particulier. Tous les jeux vidéo peuvent se définir sous cet angle, mais une constante doit être notée. L'objectif doit toujours être clair, quel que soit son mode d'existence. Il peut être donné, par exemple, par un marqueur de quête comme on peut le voir dans Grand Theft Auto V ou Skyrim. Il peut également être donné par l'histoire du jeu, par une cinématique par exemple, ou un texte introductif comme cela se voit souvent en arcade. Mais plus généralement, cet objectif est offert par la construction même du jeu et la prise en compte du schéma action-récompense. Ainsi, toute action conduisant à la perte d'une vie ou au game over sera assimilée à une action allant à l'encontre de notre objectif. Une action permettant au jeu de poursuivre pourra être en accord de l'objet ou de l'objectif. La façon également dont un jeu est construit permet généralement de clairement indiquer l'objectif à atteindre. Un scrolling horizontal, comme on en voit dans la majorité des jeux de plateforme, invite à atteindre le bras droit de l'écran, présenté comme finalité de la quête. Ou alors une montagne, qu'il nous faudrait gravir, comme dans Kid Icarus ou Ice Climbers. Un labyrinthe, tel celui que peut nous offrir Pac-Man, invite à le parcourir et à ramasser tous les éléments, le parsemant. Cette lecture particulière de l'ère de jeu, néanmoins, peut parfois rencontrer quelques difficultés et, au-delà du plaisir indéniable de la manipulation qui fait partie de l'identité du jeu vidéo, même s'il serait constitué en lui-même un élément de sa définition, car malgré l'absence de plaisir que l'on peut ressentir, un jeu ne peut être privé de sa catégorie première. Cette lecture, donc, peut souffrir d'une obscurité certaine. Super Mario 64, volontiers, nous donne à voir deux conceptions distinctes de l'objectif appliqué à un jeu de plateforme 3D. Dans les mondes conduisant à Bowser, Bowser des ténèbres, des laves et des cieux, le fait qu'une seule voie ne soit possible implique un objectif se situant à la fin du chemin, toutes les autres options étant à exclure. Nous parlerons ici d'objectifs contraints. A l'inverse, les 15 niveaux traditionnels du jeu proposent des espaces plus ouverts, où le joueur peut découvrir plus ou moins librement les étoiles de pouvoir nécessaires à sa progression. Quand bien même certaines d'entre elles exigeraient de sélectionner la mission idoine pour modifier la géographie des lieux et accéder à leur emplacement, une bonne partie des stages propose au joueur d'explorer un peu ce que bon lui semble, jusqu'à récupérer une étoile, ce qui, partant, l'exclut immédiatement du niveau. Nous parlerons alors d'objectif libre. Si l'objectif contraint peut subir diverses variations, par exemple liées au nombre de fruits collectés dans Yoshi's Story, ou bien nécessite de trouver un passage secret comme dans les Ghost House de Super Mario World, il demeure néanmoins assez évident dans son existence. En revanche, l'objectif libre peut éventuellement être source de frustration si l'exploration est complexe, si le chemin est difficilement visible, s'il est peu évident de se repérer. C'est d'ailleurs l'une des critiques les plus fréquemment faites à ce que l'on aura appelé les collectatons, les solutions proposées ayant été loin de faire l'unanimité. La méthode Mario, trouvée dans Super Mario 64 ou Super Mario Sunshine, fait de chacun de ses objectifs une mission spécifique, que l'on peut certes remplir avec plus ou moins de latitude, mais qui exige également de faire sortir le joueur du niveau pour ne pas diluer ce sens de l'objectif. Mais cela ne peut que se faire au détriment du plaisir de l'exploration. À côté de cela, l'on peut avoir la méthode Rare, trouvée dans Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64. Il n'est pas de mission particulière, et tous les objectifs sont immédiatement disponibles. Pour guider le joueur cependant, ces jeux proposent un système secondairement hiérarchisé d'objets, à l'importance moindre mais néanmoins nécessaire pour finir le jeu. Leur regroupement facilite, dès lors, la découverte des centres d'intérêt où se situent les objets de quête principaux. Ce seront ainsi des notes de musique, des bananes, d'autres types de bonus qui, formant comme une ligne continue, permettent de conduire le joueur là où un geste particulier doit s'accomplir. Malheureusement, leur dispersion rend les repérages ultérieurs difficiles, puisque nous effaçons au fur et à mesure ce fil d'Ariane sans avoir une vision d'ensemble des lieux, qui finissent par être complexes, troués comme de l'émental, recourbés sur eux-mêmes. Et si ce choix va bien dans le sens d'une meilleure exploration et d'un meilleur sentiment de liberté, cela se fait généralement au détriment du confort de jeu et de la difficulté, tout simplement du fait de naviguer au sein de notre partie. Partant, nous avons ici comme un système de signes fonctionnant conjointement. L'objectif contraint est évident, du moins, le fait que l'on ait besoin de le préciser lui permet d'avoir une immanence particulière. Quant à l'objectif libre, s'il choisit de guider le joueur, il contraint en réalité son existence en compartimentant sa progression. Et s'il laisse les choses librement, c'est au détriment d'une certaine obscurité qui peut, finalement, lui déplaire.
Troisième partie, rester sur la voie.
Il est alors intéressant de voir comment Super Mario Odyssey, au regard de ses différents modèles, organise sa progression. Ce qui est frappant, et ce qui m'aura effectivement frappé, c'est qu'au lieu de chercher à inventer une nouvelle voie, le jeu préfère embrasser les caractéristiques de l'ensemble des possibilités dans l'espoir, agréable ou déçu, de s'affermir dans sa progression. Tout d'abord, observons que l'histoire du jeu nous donne, et nous rappelle régulièrement, un objectif contraint et une linéarité jusque-là peu rencontrée dans un jeu Mario en trois dimensions, ni même dans les autres jeux de plateforme 3D que nous pouvons connaître. Au début de l'aventure, Mario est éjecté Manu Militari du royaume champignon, alors que Bowser kidnappe, pour la nouvelle fois, la princesse Peach. Ce scénario avait certes déjà été proposé par New Super Mario Bros. U. En revanche, il s'accompagne d'une course-poursuite autour du globe, à la façon dont Donkey Kong emportait toujours plus loin Pauline dans Donkey Kong 94 sur Game Boy, et nous sommes alors conduits, du moins la première fois que nous traversons le jeu, à pourchasser, toujours avec un train de retard, l'odieux lézard. À chaque étape de notre traversée du globe, les royaumes qui subissent les affres des sbires de Bowser sont comme déréglés. On a dérangé une idole ancienne, on a pris d'assaut un hôtel de ville, une marmite géante manque de déverser son contenu brûlant sur tout un village tranquille. Intuitivement, le joueur est invité à résoudre ses problèmes, auxquels on accède tranquillement, en suivant le chemin évident, en écoutant les conseils des différents personnages, en se dirigeant vers la grande lumière qui, bien souvent, illumine l'objectif immédiat de notre aventure. Mais, et cela peut être déroutant pour qui ne serait pas habitué à ce principe, la complétion de cet objectif contraint n'est pas suffisante pour atteindre le prochain royaume. Cette progression est effectivement moins indexée sur ce premier objectif que sur un second, libre quant à lui, le nombre de lunes collectées. Et autant, sans doute et en progressant sans s'en soucier, en ramassant les choses comme elles viennent, cet élément ne ralentira guère la progression les premières fois, elle deviendra rapidement un problème à compter de la moitié de l'aventure et obligera le joueur à revenir explorer davantage l'environnement s'il souhaite atteindre le dernier niveau. Ces différentes lunes, bien que certaines soient réellement obscures à trouver, sont dissimulées un peu partout et se trouvent généralement sans difficulté aucune. Leur grand nombre ne saurait être un obstacle à notre progression, et, le cas échéant, un perroquet et un toad peuvent nous donner, respectivement, l'intitulé de la mission correspondante à une lune, ce qui nous donne déjà un indice intéressant pour l'obtenir, ou bien marque sur une carte topographique, sommaire, l'emplacement d'une autre. Ce qui est à noter ici, c'est que le jeu ne propose, comme jadis, aucun fil d'Ariane pour orienter le joueur. S'il est bien dans Super Mario Odyssey des objets secondaires à collecter en la forme des pièces violettes spécifiques à chaque royaume, leur rôle n'est pas de conduire le joueur aux différents centres d'intérêt du monde. Au contraire, dispersés à l'avant-vol, dissimulés dans les moindres recoins, y compris dans les zones bonus entièrement dédiées à des lunes secrètes, plongées dans des niveaux inspirés des secrets de Super Mario Sunshine, elles composent un objectif secondaire certes, puisqu'elles ne débloqueront que les costumes et souvenirs plastiques que l'on peut ajouter à notre vaisseau, mais parfaitement déconnectées de l'objectif premier. Ce faisant, le jeu s'affranchit des problèmes rencontrés par le principe de ce genre de jeu, comme nous le notions précédemment. Il ne dissimule pas son exploration derrière une ligne de conduite, et laisse libre cours à la curiosité du joueur. C'est alors aussi pour cela que le jeu se fait gratifiant, même si certaines critiques et certains joueurs ont eu la sensation de ne pas mériter leur réussite. Mais c'est précisément parce qu'il ne prend pas la main du joueur que le jeu se propose de dissimuler ses lunes partout, et pour le moindre geste, pour justifier l'exploration et récompenser le joueur de sa malice. Quelque part, et malgré leur disparité quant à leur importance, les lunes de Super Mario Odyssey seraient à l'image des graines qu'ont au goût de Breath of the Wild. Une omniprésence assumée pour éviter de guider le joueur marche après marche, barreau après barreau.
Quatrième partie, les récompenses multiples.
Cette multiplicité ne va pas cependant sans aspérité. Et si elle permet d'être en harmonie avec la progression du jeu et son esprit d'ouverture, elle peut terrasser l'accomplissement et le bonheur de récupérer ces moments importants de notre progression. C'est là une difficulté que les développeurs connaissaient bien, et qu'ils ont tâché d'aplanir autant que faire se pouvait. Ils ont alors mis en place un autre réseau de signes qui, en harmonie avec cette multiplicité, permettait d'amoindrir cette difficulté. Il y a tout d'abord une série de signes plastiques ou esthétiques qui font de chaque événement une célébration. Le jingle entraînant, l'écran s'arrêtant un instant, permettent d'établir la réussite de l'action et de rendre le moindre geste gratifiant. Ensuite, il y a le fait que ces lunes demeurent sur l'écran de jeu, même lorsque collectées. Elles témoignent de notre parcours passé et établissent une sorte de guide mémoriel à l'image des notes de Banjo-Kazooie, bien que constamment présent à l'écran. Enfin, il y a le fait qu'une lune nouvelle vous redonnera toujours toute votre vie, ce qui permet non seulement de soulager le rôle des pièces de jadis, mais également de pousser constamment le joueur de l'avant dans sa quête exploratoire, sans la peur probable de la mort prochaine. Tous ces différents signes, rentrant en réseau les uns avec les autres, créent un plaisir bien différent des jeux 3D d'alors. Plutôt qu'une construction périodique, tout orienté vers un seul et unique objectif, généralement mis en place par la construction du niveau elle-même, une montagne ou une pyramide centrale, ou un cheminement peu libre se tortillant autour d'un pylône comme dans Tick-Tock Clock pour Super Mario 64, ou en marguerite, et revenant vers un point plus ou moins centralisé, comme le font davantage Super Mario Sunshine ou Banjo-Tooie, Super Mario Odyssey propose une construction étoilée et excentrique, décentrée, sans que l'on ne puisse définir un point d'arrivée ou un point de départ, autrement dit, sans hiérarchisation des objectifs. Cette idée approche volontiers Super Mario Odyssey d'un jeu de type open world, quand bien même segmenterait-il énormément sa progression. Mais chaque royaume pourrait se définir comme une sorte de micro-monde ouvert, mollement relié par l'intermédiaire d'un globe terrestre, totalisant par définition, gérant une sorte de géographie complexe, qu'il serait envisageable d'explorer, n'eût été la distance, séparant effectivement les pays entre eux. Faisant cela, Super Mario Odyssey justifie pleinement son nom, et se focalise davantage sur le voyage que sur la destination, sur la découverte que sur la reprise et le connu. C'est aussi pour cela que cet épisode de Mario prend un malin plaisir à proposer des environnements fort novateurs pour la série, ou du moins se départant suffisamment des sentiers balisés pour proposer cette Toonheimlich, cette sensation d'étrangeté propre à ces longs voyages inconnus. En ce sens, les environnements photoréalistes, ou du moins assez réalistes pour Mario que serait le pays des chutes, New Donk City ou le pays des ruines, sont là pour provoquer ce sentiment. Quant aux autres, ils s'amusent à mélanger les contraires pour produire une constante sensation d'émerveillement. Le désert est gelé, la forêt et le métal se disputent. Il faut donc considérer ici un départ quant à la sensation de récompense que peut produire le jeu. Celle-ci était jadis surtout située, et dans le plaisir de la manipulation, et dans la réussite des différents objectifs que nous imposaient les jeux de plateforme. Mais Super Mario Odyssey oriente cette récompense quasi exclusivement dans la manipulation du personnage, les lunes n'étant qu'un effet secondaire de ses gestes de gameplay. Quelque part, pour s'amuser dans Super Mario Odyssey, il faut délaisser le principe d'accomplissement traditionnellement offert par les jeux vidéo et accepter que le schéma action-récompense soit ainsi perverti. Ce n'est plus l'obtention d'un objet de quête qui doit être la récompense en elle-même, mais bien l'étape précédant sa découverte. Fût-elle simplement ouvrir une caisse brisée, tuer un ennemi ou explorer un passage secret. Il s'agit là d'une nouvelle direction pour Mario, qui n'est cependant pas sans renvoyer au discours sur les nouvelles façons de jouer de Nintendo concernant qui la Wii, qui la DS. Si ce n'est, plutôt que de faire endosser cette philosophie aux consoles, elle se déplace au sein même des logiciels sans même y paraître, ce qui rend la surprise plus importante encore.
Cinquième partie, le nouveau dans l'ancien, l'ancien dans le nouveau.
En jouant à Super Mario Odyssey, je n'ai cessé de penser à la même chose. C'est le jeu que j'attendais depuis toujours. Il ne s'agit cependant pas uniquement, à ce que j'ai cru pendant longtemps, qu'une simple nostalgie venue de Super Mario 64, même si cela a dû évidemment jouer en ma faveur. Il s'agissait plutôt d'une sorte de décharge émotionnelle, que j'ai toujours plus ou moins ressenti en jouant aux jeux vidéo. Très souvent, et quel que soit le jeu auquel je m'essayais, j'ai toujours été d'un naturel anxieux. Quand bien même apprécierais-je beaucoup cet exercice, j'avais toujours une certaine peur qui m'éprenait, peur de l'échec, peur de la mort, peur de devoir recommencer une section compliquée de ma partie. Cela me le fait encore aujourd'hui, même si j'ai appris à contrôler ce qui, plus jeune, me terrifiait et m'immobilisait parfois. Mais je n'ai à aucun moment trouvé cela dans Super Mario Odyssey. La raison est telle que je l'ai présentée. Ce jeu propose une nouvelle façon de jouer, tout orienté davantage par le plaisir de la manipulation du personnage, par la découverte de nouveaux environnements, et par la récompense constante offerte au joueur, sans que rien qui ne puisse faire ne le conduise à l'échec. La disparition des vies, phénomène qui a été abondamment commenté, participe de même à cette impression. Non que la chose soit particulièrement novatrice, puisque depuis longtemps les jeux de plateforme 3D s'en sont passés, accompagnés par Banjo-Tooie, auquel nous avons fait plusieurs fois référence dans cette émission, mais elle est ici réinvestie au sein d'un jeu, d'un univers, qui lui donne un sens nouveau, au-delà de l'agréable que la suppression de cette épée de Damoclès provoque. Ce compteur menacé de toujours atteindre le point nul est un obstacle à la progression, à la marche en avant. Et si certains jeux tirent grand profit de ce phénomène, et de la mort en particulier, comme nous l'avons étudié dans Super Meat Boy dans notre 26e émission, il s'accommode en revanche bien moins des mondes ouverts et cela, The Legend of Zelda, The Elder Scrolls, Grand Theft Auto l'avait compris depuis longtemps. En proposant cela, en systématisant son approche et en faisant en sorte que ces différentes parties signifiantes soient cohérentes en elles-mêmes, Super Mario Odyssey ouvre peut-être la voie à une nouvelle façon de considérer le jeu vidéo et de proposer une étape intéressante de son développement. De la même façon qu'il était des films, des livres, des musiques positives, enthousiasmantes, qui ne veulent point nous faire réfléchir sur ceci ou cela, mais n'ont d'autres objectifs, tout aussi nobles cependant, que de nous apaiser, nous distraire et nous rendre heureux, il peut y avoir à présent des jeux vidéo qui, étant assurés de ne rien avoir à prouver et dégagés de la contrainte de devoir nous occuper, peuvent proposer un voyage, un parcours détaché de toute utilité. En un mot, Super Mario Odyssey fait de sa multitude une sorte d'ode à l'inutile ou à la contemplation. Il fait ça d'autant mieux du reste qu'il ne néglige nullement la composante interactive du jeu vidéo. Il le célèbre, en étendant considérablement les mouvements du plombier, notamment par l'intermédiaire du principe de possession qui permet d'envisager autant de micro-séquences ludiques stimulantes et parfaitement intégrées à notre partie. C'est une sorte de bac à sable joyeux, à l'image de ceux que l'on côtoyait bambin, dans lequel tout est possible, dans lequel rien n'est par avance décidé. Dans Super Mario Odyssey, chaque royaume, chaque pays est une nouvelle possibilité de jeu. Et à la fin de la partie, nous ne libérons moins Peach de Bowser qu'elle choisit de se libérer elle-même. Super Mario Odyssey vous propose la liberté, découlant directement de la course-poursuite, de la chasse, de la fuite en avant sans objectif clairement ou immédiatement défini. Et de la même façon que la Switch se revendique comme une console hybride entre nomadisme et sédentarité, cet épisode de Mario refuse l'identité facile et la catégorisation immédiate pour nous laisser le choix de sa propre définition.
Toutes les deux semaines avec Yann
et avec Lou,
on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers.
On reçoit également des invités et on répond à vos questions.
La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo,
c'est votre actualité du jeu vidéo.
Un vendredi sur deux
sur Radio Kawa.
C'est La Cartouche sur Radio Kawa.
Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter.
Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles.
Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute.